Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir, rendez-vous mensuel dans Variation. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Bonjour Hervé.
Bonjour Guy.
Alors, les éditions Liana Lévy tracent leur bonhomme de chemin en toute indépendance depuis plus de 40 ans et offrent un catalogue d'ici et d'ailleurs, un catalogue riche de plus de 600 titres avec de belles fidélités ou plutôt de bons accompagnements puisque un nombre non négligeable d'autrices et auteurs de cette maison semble y être particulièrement attaché. C'est le cas de l'autrice et de l'auteur que nous allons évoquer aujourd'hui dans Variation en noir, à savoir Pascal Dietrich, Pascal Le Dietrich, qui vient de publier L'Agent, son quatrième roman chez Liana Lévy. Et Yann Levison, lui, fait mieux puisque avec les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques. Il en est à son neuvième roman, toujours donc aux éditions Liana Lévy. Et il sera question, Hervé, avec ses deux auteurs, d'humour, d'ironie et de comédie noire, pour reprendre la formule de l'éditeur. Hervé, pour commencer,
je voulais ajouter quelques mots sur cette maison indépendante,
oui, voilà,
effectivement,
oui.
Parce que elle, qu'elle soit, que ce soit avec du noir assumé comme tel, enfin présenté comme tel, comme dans leur collection de poches, la Piccolo Noire, là, qui a proposé il y a peu une enquête inédite de Qiu Xiaolong,
oui,
qui est le maître du polar chinois. Il y a une fidélité à des auteurs il y a des gens qui sont pas catégorisés polars mais qui flirtent avec des éléments, enfin qui plaisent aux passionnés du noir. Il y a quelqu'un qui t'est cher, je crois,
oui,
qui est Andrei Kourkov, par exemple.
Tout à fait, ouais.
Il y a Eva Dolan, quelqu'un qui est venu en France il y a peu, qui est Abir Mukherjee, qui depuis l'attaque du Calcutta d'Arjeeling jusqu'aux ombres de Bombay, nous offre une série polar dans l'histoire de la décolonisation de l'Inde. Il y a un attrait de toute façon et un goût certain et très sûr pour la comédie policière. J'ai vu qu'en Piccolo Noir, justement, ils avaient ressorti Swap d'Anthony Moore, que je recommande aussi à nos auditeurs, qui est une comédie policière grinçante qui n'arrête pas de balancer entre le polar et la satire sociale. Et c'est un peu un... Il y a, évidemment, la maison offre des tas d'autres facettes, mais c'est aussi dans son ADN, ce côté comédie policière qu'on va retrouver aujourd'hui.
Et du monde entier, tu l'as dit, hein, donc un auteur chinois, ukrainien, américain, indien, donc bien sûr des auteurs français, mais vraiment un catalogue très riche. Alors, il y a une collection dédiée aux romans policiers, aussi chez Liana Lévy, mais Pascal Dietrich, hein, dont nous avons parlé aujourd'hui, et Yann Levison ne sont pas dans cette collection.
Oui, c'est ça qui est amusant, c'est ce côté, justement, ce décalage qui fait que, on va par exemple ici s'intéresser à deux auteurs qui ne sont pas pas dans ces catégories-là, mais qui sont par ailleurs l'un comme l'autre. Yann Levison, je l'ai vu à Lamballe, Pascal Dietrich, elle était à Pau, dans des festivals du noir.
C'est vrai. Hein. Alors, l'un et l'autre, hein, Yann Levison et Pascal Dietrich, ne s'intéressent pas plus que ça à la résolution d'enquêtes policières. Hein. C'est sans doute pour cette raison.
Que toi et moi, ouais, je pense.
Voilà, hein, ni même au sang qui coule. Néanmoins, le crime, ou tout au moins la criminalité, est bien présente dans leur œuvre, même si c'est de manière un peu détournée ou indirecte, puisque nous allons suivre avec Yann Levison un avocat et nous allons suivre un homme d'affaires, alors un agent, on va dire, avec Pascal Dietrich. Donc on est quand même dans cette thématique du noir, roman dit criminel.
Oui, du crime au sens de la transgression. Le roman criminel étant peut-être la meilleure définition qu'on puisse donner par rapport à d'autres types de genres littéraires. Voilà.
Nous allons commencer par Pascal Dietrich, hein, même s'il y a beaucoup de croisements possibles entre ces deux romans. Donc, je rappelle, l'agent pour Pascal Dietrich et les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques. Mais donc, Pascal Dietrich, un mot aussi sur cette autrice, cet auteur. Hervé, je sais que tu l'as croisé récemment au festival de Pau.
Pascal Dietrich, oui, on se connaît bien. C'est intéressant, ça a été une découverte de l'auteur, le grand auteur de nouvelles, Marc Villard, qui par ailleurs dirige la collection Polaroid aux éditions Inuit. Et il a découvert le talent littéraire de Pascal Dietrich en 2013, en fait, il a publié une novella, comme on dit, qui s'appelait Le Homard, il y avait une dénommée Camille qui gagnait un homard vivant dans une tombola. Il y avait un premier touriste anglais qui était retrouvé mort sur une plage, et on cherchait un pic à glace une bourgade au bord de la mer. On comprenait que ça ne suffisait pas à faire le bonheur, mais tout ça était totalement noir, vivement mené, désopilant, et c'était déjà la marque de fabrique qu'on allait retrouver après un autre recueil de nouvelles chez Inuit aussi. Pascal Dietrich a publié plusieurs romans chez Liana Levy, dont je sais qu'on avait au moins parlé ici des mafieuses, dont on avait dit le plus grand bien.
Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas rêver. Donc celui qui est sorti en 2021, on avait dû aussi l'évoquer. Alors, Pascal Dietrich, il faut le dire, elle est née en 1980, nous dit son éditeur. Elle vit à Paris. Elle est sociologue et ses travaux portent sur les populations précaires et les inégalités. Et on a le sentiment un petit peu que ses romans lui permettent de sortir peut-être de ce travail en sciences sociales et notamment sur les populations les plus en difficulté. Mais néanmoins, on sent quand même son intérêt hein, pour ces populations, puisque le personnage que l'on suit, l'agent, donc Anthony Barreau, alors là c'est aussi un clin d'œil entre ces deux, entre ces deux romans, puisque le personnage de Pascal Dietrich s'appelle Anthony Barreau, et que nous y reviendrons après, Yann Levison, lui, son personnage principal, est un membre du barreau, on va dire comme ça, puisque c'est un avocat. Mais donc, Anthony Barreau, qui habite le 16e arrondissement, fait homme d'affaires, agent, voilà, très, 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 très propre sur lui et tout, vient d'un milieu quand même bien, bien compliqué. Et donc, il y a toujours hein, dans ces livres un regard sur notre société, même si on est dans une forme de divertissement, hein, comédie noire, on peut parler de lecture divertissement, il y a quelque chose de toujours un peu plus profond, Hervé.
Ben oui, parce que de toute façon, alors qu'on le dise d'entrée de jeu à nos auditeurs, l'agent, c'est totalement, oui. C'est très drôle, on rigole d'un bout à l'autre, mais il n'y a pas que ce côté divertissant, qu'il l'est vraiment, mais il n'y a pas que cela. Tu parlais justement, bien sûr que je pense que les romans de Pascal Dietrich, qui est quelqu'un de très drôle aussi dans la vie, mais qui est par ailleurs une sociologue très sérieuse, c'est un pas de côté, mais en même temps, on y retrouve, on va en reparler peut-être, on y retrouve d'une manière un peu détournée cet intérêt pour les populations défavorisées, mais même Anthony, dont tu citais à juste titre, en fait, il a connu l'aide sociale à mm-hmm. l'enfance, et puis après, ils l'ont laissé tomber, évidemment, puisqu'il a eu 18 ans, et donc, il a vivoté, elle dit, entre la rue, les centres d'hébergement et les squats. Il avait accepté le travail qu'un rabatteur lui avait proposé en guettant la sortie du foyer et poussé la porte d'un armurier pour mettre ses maigres économies dans une carabine 300 Winchester Magnum. 5 ans et quelques cadavres plus tard, il avait remisé les armes au placard et était devenu agent, et agent effectivement responsable d'une agence de tueurs à gages, mais ce qui est une espèce de métaphore évidemment poussée, un peu grotesque, un peu poussée à l'excès, mais du cynisme d'une époque où seul compte le résultat, la rentabilité. Voilà, parce qu'en fait, cette agence de tueurs ne fait que reproduire ce que produisent plein d'entreprises.
Tout à fait. Hein. On est dans le commercial, la négociation, les affaires, etc. Et avec une succession un enchaînement de situations effectivement qui font bien sourire l'agent est en haut en fin de compte du contrat là qu'il vient de proposer et puis il va s'apercevoir, on ne dévoilera pas bien sûr la suite et la fin du roman, mais il va s'apercevoir que la mission qu'il a confiée à un tueur elle-même a été confiée par ce tueur à un autre tueur et ainsi de suite.
C'est les aléas et les aléas parfois très désagréables de la sous-traitance.
Et alors donc c'est un agent va croiser aussi une mamie en cavale hein, et il se retrouve, alors c'est marrant, il se retrouve quand même dans un camping
un lieu totalement improbable.
Un camping, alors on n'est pas en bord de mer, on n'est pas à la montagne, on est dans un lieu vraiment la France profonde et c'est vraiment étonnant hein, aussi cette description là de...
Oui, je connais assez bien Vierzon,
c'est à Vierzon et donc
le camping de l'étang de Vierzon.
Tout à fait, une forme de réalité, c'est pas ce qu'on voit dans les magazines dans les agences de voyage, mais il y a des gens qui s'y trouvent très bien, qui passent du bon temps avec des barbecues, la pêche, beaucoup de convivialité c'est aussi intéressant de ce point de vue là quoi, un autre type de vacances.
Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est là qu'on retrouve aussi la sociologue qui s'intéresse aux marginaux, c'est-à-dire que ce camping de Vierzon, en dehors de nos deux personnages dont on va sans doute reparler, et cette rencontre absolument incroyable et improbable, c'est une manière aussi de braquer le projecteur sur un lieu où vivent à l'année des laissés pour compte, des populations invisibilisées. Ça correspond aussi à ces personnes auxquelles toute l'année s'intéresse Pascal Dietrich professionnellement. Et elle dit de toute façon, Il y avait un entretien d'elle avec elle dans le dernier numéro de la revue 813.
Oui, c'est vrai.
Et à un moment, elle dit « Pour avoir des idées, il faut être attentif et s'étonner du monde. Mmh. » Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours à l'affût et à l'affût de choses... de choses sérieuses qu'elle ne traite pas sérieusement. Voilà.
Alors,
prendre au sérieux, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Et donc, notre Anthony Barrault, donc, hein, le responsable de cette agence qui n'a pas pignon sur rue, hein, bien entendu, il a, et c'est, ça aussi, c'est intéressant. Donc, il a un réseau, hein, de tueurs à gages. Et régulièrement, Pascal Dietrich nous donne des petites fiches, hein, les petites fiches qui décrivent. Lui, par exemple, il y a Alain Finot, situation familiale célibataire, talent, employé au SAV chez Darty, spécialiste des accidents ménagers.
Sébastien, oui, il y a des références, ouais, aussi, il y a Ghost Dog, il y a...
Ouais, voilà, ouais, ouais. Sébastien Lagrange et Céline Nicou, dit les amoureux, spécialisé eux dans les mises en scène sanglantes, saccage d'intérieur. Il y a, voilà, un spécialiste de la strangulation, ça c'est Jean Gomini, dit l'étrangleur. Il y a, Raoul Labiche, lui... il a un CAP mécanique et il provoque des accidents de la route meurtrier. Sarah Jolie, dit Kill Bill 37, née à Tours, bien entendu. Elle, c'est séductrice, assassine à la lame de rasoir. Donc, il y a toute une série comme ça de portraits de tueurs à gages dans ce roman. Mais vraiment, on lit ça d'une traite, hein, Hervé.
Ah ben on lit ça absolument d'une traite et on découvre effectivement, c'est d'ailleurs ce qui était à l'origine de ce roman, hein, puisque Pascal Dietrich, elle explique assez bien que ces histoires, elles naissent au départ de l'envie de faire exister un personnage particulier. Bon, là, c'était Anthony et la découverte d'une profession, celle d'agent de tueur, une espèce de comme il y a des agents pour les artistes, quoi, hein, une espèce de 10% dans le monde du crime, en fait. Je voudrais qu'on dise aussi deux mots de l'autre personnage,
parce que c'est
ça qui est génial, c'est cette balance qu'il y a entre les deux, cette rencontre entre Thérèse, qui pourrait être un peu la grand-mère d'Anthony, quasiment, ou en tout cas la maman, qui a été à la tête de cette agence matrimoniale, qui a connu des jours...
une agente noir, aussi, une agente.
Dire, mais qui n'est plus dans l'air du temps, et elle a eu un AVC, il y a son neveu qui lui a absolument la coller dans un EHPAD, et elle se retrouve en cavale au camping de Vierzon, et tout ça va faire des étincelles, et c'est vraiment... C'est aussi une idée de génie, ça.
Oui, oui, c'est vrai que ce regard sur les agences matrimoniales est très intéressant, finalement. Et donc, cette dame est aussi une agente, en quelque sorte,
oui,
hein, avec un certain nombre de dossiers, de fiches, de personnes, hein, qu'elle a en fichier. Donc,
oui, c'est pour ça que le titre du roman peut s'appliquer à tous les deux. En fait,
exactement.
Voilà.
Alors Hervé, les matinées d'Anthony suivaient toujours la même routine, quelques étirements, un verre de multifruits, une douche tiède, puis il mettait sur la platine son morceau favori, « Let me introduce you to the family » des Stranglers. Vous écoutez Radio PFM, Variation en noir. Hervé, you love the family?
Excellent d'avoir passé cette chanson des Stranglers. Ouais. Voilà.
C'est étonnant
comme souvenir. De bons souvenirs rock. Et puis vraiment. C'est bien parce que ça a la pêche et puis en même temps le choix de cette dernière émission de 2024, il est réjouissant parce qu'il est justement aussi beaucoup ce qu'on aime, c'est-à-dire de la comédie noire mais et de la satire grinçante.
C'est exactement
de la,
ça.
De la comédie noire intelligente, c'est
ouais.
génial.
Ouais. Alors on en
c'est
arrive
bon cadeau.
Ouais, un maître du genre. De cette comédie noire, c'est Yain Levison. Donc lui, il en est à son.
Il nous ravit depuis, je crois que le premier livre publié ici, c'était
un petit boulot, je pense. Ouais.
Un petit boulot. Voilà, qui avait un petit peu à voir avec le coup près de Donald Westlake et qui en tout cas était dans une veine pour le moins aussi grinçante, désopilante et tout. Mm-hmm. Et en même temps, au fil des livres, avec Arrêtez-moi là, avec Ils savent tout de vous, Pour service rendu, ouais. Un voisin trop discret. Enfin, il y en a plein qu'on a évoqué ici d'ailleurs. Hein. Mais Yain Levison, c'est une espèce de satire de l'Amérique. Il n'a pas de cesse, livre après livre, de souligner les défaillances du système social et politique, et en même temps pas du tout en livrant de la littérature à thème, voilà, mais bon, c'est à chaque fois en nous faisant aussi beaucoup rire et avec un sens de la formule absolument aiguisé, impeccable.
Ouais. Tu l'as croisé donc au festival de Lamballe, c'est ça, Hervé?
Oui, je l'ai croisé, mais mon anglais mon anglais très défaillant ne me permet pas d'avoir une conversation un peu longue, donc à part se saluer, c'est un peu difficile.
How are you, c'est ça.
voilà.
Et donc,
voilà.
Je
l'ai écouté, voilà, et par ailleurs, justement, puisqu'on cite la revue 813, le prochain numéro qui va paraître au tout début janvier contiendra une longue interview de Yain Levison, qui a été réalisée par Jeanne Guyon l'occasion de la venue de Yain Levison au gros festival America.
Oui, il était là aussi, America, septembre, hein, ça, je pense, d'accord. Donc, alors signalons-le aussi. Hein, bon, ce sont pas les gros pavés, hein, des thrillers. Il y a 150, 200 pages. Yain Levison,
oui,
c'est 230.
Ouais,
c'est tout, et puis bon, voilà, et ça se lit. Encore une fois, ça se lit, ça se lit d'une traite. Donc, un titre qui lui aussi d'une traite. Hein, les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils. Conseil juridique pour un roman de Yain Levison. Alors, bon, c'est un sacré raconteur d'histoire, Yain Levison, hein, parce que on sait très bien que ce boulot auprès de stripteaseuses, trop bien payé, a quelque chose de louche, et on se demande bien comment cet avocat, Justine Sykes, alors la prononciation, je te laisserai me corriger, Hervé.
C'est pas mal, hein,
ouais, tu crois, ouais, bon. on sait très bien que cet avocat, enfin, on se demande comment cet avocat a pu accepter une pareille mission et se laisser entraîner dans cette histoire. Qui est aussi...
Alors, on peut quand même comprendre qu'il l'accepte aussi pour de l'argent, parce que ça va être payé 1 000 $ de l'heure, alors qu'il est un avocat, il a été un avocat brillant, lanceur d'alerte. Le roman, on ne va pas le dire pourquoi, parce que le lecteur découvrira à un certain moment du roman pourquoi, quelle a été la déchéance de cet homme qui quand même a eu de la conscience et un certain esprit de justice, justement. Mais quand on s'ouvre le roman, il est avocat commis d'office, et avocat commis d'office aux États-Unis par ailleurs. Ce qu'on ne sait pas forcément ici, où on a l'image des grands procès, les, voilà, 12 hommes en colère, mais enfin, c'est quand même que l'essentiel du travail d'un avocat commis d'office aux États-Unis, c'est de la négociation.
Oui.
Ce qu'on voit très bien d'ailleurs dans le roman.
Oui, tout à fait. Bon,
c'est-à-dire que comme on peut, comme l'argent peut aussi acheter un certain nombre de choses, on ne cesse, pour, en tout cas pour des affaires qui ne sont pas des affaires de crimes de sang, il ne cesse de négocier des peines. Voilà, il y a des moments complètement incroyables où c'est en gros, l'avocat de l'autre côté dit 500, lui dit 300, allez, on va transiger à 400.
C'est ça. Et puis bon, ça se compte aussi en semaines ou années de prison. Hein. Bon, 6 ans, l'avocat commis d'office dit non, 4 ans,
5. C'est-à-dire le nombre de jours ou le nombre d'années.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Mois,
et avec des amendes aussi qui se négocient, tu le disais, tous se négocient.
Les amendes se négocient et c'est évidemment un quotidien extrêmement déprimant quand même.
Et parfois alors, donc, c'est un sacré regard sur l'envers du décor de la justice au quotidien. Donc, il arrive que les deux parties, l'avocat de la défense commis d'office et celui qui représente le procureur, le ministère public, il arrive qu'ils ne se mettent pas d'accord. Et dans ce cas-là, il y a un procès et ça embête tout le monde, finalement, les procès, parce que c'est quand même une organisation assez lourde, etc. Ils y vont rarement, très rarement, finalement, au procès. Et les personnes concernées, la personne qui doit passer en jugement, on a l'impression aussi qu'elle s'accommode très bien de cette situation.
Ah bah oui, tout à fait.
Ça fait partie du jeu. On a le sentiment.
Oui, il y a une espèce comme ça de jeu auquel tout le monde semble s'être un peu résigné. La justice a bien peu, ou une quelconque... Il ne cesse de dire, Justine Sykes, qu'il a des clients nouvellement arrivés qui vont expliquer comment ça s'est passé pour dire la vérité, etc. Et en gros, lui est un peu obligé de leur expliquer. Et Jane Levison nous le raconte dans ce roman drôle, par ailleurs, en gros, le tribunal s'en fout, c'est-à-dire le problème n'est pas là. Le problème n'est pas celui de la vérité, il y a des moments vraiment très très incisifs dès le départ sur la société américaine. Un beau costume peut réduire une peine de plusieurs années. Si la moitié de mes clients avaient sur le dos, en commettant leur forfait, les vêtements que je leur suggère de porter au tribunal, ils ne se feraient même pas arrêter. Regardez les émissions de télé-réalité policière. Vous remarquerez que le type qui se fait plaquer au sol par 4 flics n'est jamais en costume Armani.
Mais non, on est tout à fait...
C'est bien observé.
Oui, tout à fait. Ah ouais, mais il y a des conseils vraiment aussi. Il y a une dame aussi. Ça vaut le détour. Alors donc, notre avocat se fait un petit bonus. Il met un peu de beurre dans les épinards avec ce contrat inespéré. Il passe une heure dans un club de striptease pour aider les stripteaseuses qui peuvent avoir des petits soucis avec la justice ou avec d'autres personne. Alors c'est bon, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui se trame derrière, parce que bon, il doit passer une heure dans ce club, mais l'engagement c'est qu'aussi il doit passer la nuit au motel
on se garant toujours à la même place. À côté d'un plombier et d'une mystérieuse dame d'une quarantaine d'années.
C'est, voilà, voilà, c'est, qui, et qui se retrouve
une ambiance. Ouais. Alors là, ouais. Par contre, ce motel, c'est un peu un côté, c'est un côté un peu Twin Peaks. C'est très étrange. Et évidemment, il ignore absolument les raisons de tout cela qu'on découvrira.
Bon, petit à petit,
qu'on découvrira assez vite. Ça dira quoi? À quoi il sert, et puis il y a aussi dans ce monde où tout est imbriqué, où il y a de nombreuses choses trappes, où tout est piégé, on comprendra aussi là où est le piège.
Oui.
Mais c'est vraiment par une espèce comme ça de petits. C'est pas péjoratif, hein, mais de petits bouts de la lorgnette, en partant de là, Yane Levison arrive à quand même donner une version, c'est un peu absolument effrayante de la justice américaine.
Et puis du trafic aussi, bon, on ne l'a pas dit bien. Moi, j'ai revu récemment Razia sur la Schnouf, hein, un sacré film autour de ces questions. Donc il y a cette emprise, hein, des réseaux, du trafic de drogue, etc. Et des organisations vraiment d'une sophistication pour faire circuler tous ces produits étonnants. Et donc derrière ce club de striptease, on le découvre petit à petit, se cache beaucoup de choses. Voilà, Hervé, bon, donc deux lectures à recommander particulièrement. Et notamment
deux lectures à recommander qui sont vraiment extrêmement réussies, qui nous emmènent l'un et l'autre dans des univers très différents, mais avec un souci absolument commun, on peut dire, de nous faire rire vraiment d'un bout à l'autre de ces deux romans, et en même temps de faire réfléchir, de gratter là où ça démange, et de montrer les travers de ces sociétés au-delà de l'Atlantique ou ici, et c'est vraiment très réussi, c'est des moments de plaisir garantis.
Voilà, donc à lire Yane Levison, les stripteaseuses ont toujours besoin de conseils juridiques, et Pascal Dietrich, l'agent, deux romans publiés par les éditions Liana Lévy. Voilà, c'était Variation en noir dans Variation, une émission mensuelle de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir. Bonne fête, Guy.
Oui.
Bonne fête à Bernard, bonne fête à toutes et tous, bonne lecture, et on se retrouve en janvier.
Voilà, dans un mois, l'année prochaine, mais ça va arriver très vite.